Revenons à ce que disait Anne et Laurent, si vous voulez bien, parce que là, c'était vraiment, on les a interrompus. Alors, donc, vous disiez que les destructions matérielles sont beaucoup plus impressionnantes.
Oui, on a commencé par à parler de la météo, parce qu'on sait qu'en France, il fait très chaud, peut-être aussi à Londres. Ici aussi, il commence à refaire chaud. Et donc, il y avait notamment la semaine dernière, beaucoup d'orages, des gros orages. Et ça, voilà, la perception du son, elle est complètement altérée en temps de guerre. Les sons perdent justement ce à quoi ils étaient habituellement liés. Et l'orage, ça fait peur, mais bon, tant que c'est l'orage, ça va. Malheureusement, quelques jours plus tard, il y a eu cet énorme bombardement qui a duré vraiment, qui était très très long. Et ce qu'on disait, c'est que heureusement, peu de morts civiles, mais alors, par contre, des destructions partout, même à Podil. Donc nous, on est à Podil, c'est un quartier.
Qu'est-ce qui a été détruit à Podil?
Le musée de Tchernobyl, entre autres. En fait, c'est un musée. Tu sais, David, à
Ah
chaque fois qu'on se rejoint au pied de la Grande Roue,
oui.
musée,
C'est juste à côté.
le musée de Tchernobyl est juste
D'accord.
près, c'est près de la Moïla, de
Voilà.
l'université Moïla.
Et dans des rues,
D'accord.
on sait qu'en général, c'est plutôt dans les quartiers un peu périphériques, ou bien vers Loukianiska, qui est souvent bombardé, ou Darnevska sur la rive gauche. Mais là, par exemple, à Podil, vraiment, alors, il y avait des rues entières où toutes les vitres ont été soufflées. Et donc, avec le lendemain, alors ce qui est passionnant, c'est le lendemain, comment les gens réagissent. Il y a tout de suite, voilà, donc de l'aide volontaire, de personnes donc, qui nettoient le verre, qui découpent des plaques de contreplaqué pour colmater les vitres. Et aussi, ce qui est vraiment passionnant, c'est que, puisqu'il y a eu beaucoup de vitrines qui ont été soufflées, c'est qu'il y avait des files énormes devant les cafés, mais pas parce que les gens avaient spécialement envie de boire un café, mais pour soutenir, parce que
D'accord.
les gens ont vraiment besoin d'argent. Il n'y a pas d'assurance ici, donc après, ils font des levées de fonds. Et par exemple, acheter un café dans un café qui n'a plus de vitrine, voilà, où il y a plus, où tout a, où il y a plus de chaises, etc., c'est un signe de soutien civique, voilà, parce que c'est symbolique. Déjà, on est là, on continue à vivre. Et en plus, on va les aider à reconstruire, parce que ça, c'est compliqué après. Voilà.
Alors, on a plusieurs questions à vous poser. On peut vous transmettre aussi, d'abord, ça c'est juste un apéritif, pas bien important, mais confirmez-nous le sentiment qui s'exprime à travers les gens avec qui on est en contact. Mais alors, on est en contact avec des gens qui ont les mêmes opinions que nous, donc le problème est là. Mais il y a le sentiment que ce qui s'est passé, le bombardement sur Moscou, et l'acuité des tirs de cibles ukrainiens, font dire à beaucoup de gens que c'est le tournant, que c'est en train d'être le tournant. Et on a même entendu que finalement la rage de Poutine s'assimile à la rage d'Hitler à la fin, qui finissait par détruire, comme tout dictateur qui se sent le dos au mur. Est-ce que c'est vrai ou pas? Enfin, est-ce que c'est vrai? Est-ce que pour vous c'est palpable?
Tu peux commencer? Tu
Alors,
commences?
non, vas-y, commence, mais vas-y.
Moi, je dirais, je te laisse la parole juste
Non,
après,
vas-y.
je dirais absolument.
Ah.
En plus, voilà, et après, il y a ces menaces qui font extrêmement peur de l'extérieur, surtout quand voilà, on ne connaît pas, voilà, évacuer, que toutes les ONG, que tous les ressortissants étrangers partent. Ça marque les gens. Et puis, on se dit, bah, pourquoi est-ce qu'ils n'obéissent pas? Finalement, c'est un avertissement. Mais alors, ici, c'est clair que c'est vraiment. Là, ils sont en train de mourir. C'est vraiment
Qui?
les Russes.
Ah, ouf,
Les Russes. Par exemple, parce que je veux dire, les menaces des Russes qui, soi-disant, sont des menaces, voilà, ils disent, nous allons cibler des cibles légitimes, etc. Il y a quelques minutes, quelques heures peut-être, ils ont ciblé un jardin d'enfants à Kherson. Voilà. Il y a même quand ils disent des choses qui font peur, par exemple. Ah, donc vous n'évacuez pas vos ambassades, donc c'est-à-dire finalement vous ne fuyez pas, mais donc ils avaient prétendu cibler des choses militaires, des cibles légitimes en temps de guerre. Donc qu'est-ce que ça voudrait dire pour un ambassadeur ou un diplomate d'avoir peur d'être bombardé? C'est-à-dire que si on va jusqu'à la fin de ce qu'ils disent, ça veut dire que ils avouent qu'ils tirent sur des civils, et d'ailleurs c'est ce qui se passe.
En fait, je pense que
Ils avouent que
ils tirent sur des civils. Oui, le tournant, en fait, enfin, je pense qu'on est à un tournant, mais ce ne sera pas un tournant à la Hitler. C'est-à-dire que je ne pense pas que les armées ukrainiennes iront marcher sur Moscou comme les armées alliées oui. ont marché sur Berlin, c'est pas possible. Je pense qu'il y a une fuite en avant de Poutine parce qu'il voit qu'il est en train de ramer et puis que sa guerre n'aboutit pas. Il rechigne à établir une conscription. Parce que c'est trop cher et puis surtout ça viendrait sa population. Et puis j'ai peur que c'est un tournant, mais je pense que enfin, j'ai l'impression que c'est un faux tournant, c'est-à-dire que c'est un tournant, certes, on peut dire, mais c'est un faux tournant parce qu'on va arriver à un statu quo et à une ligne de front qui va être figée. Mmh. Et je ne pense pas que ce soit ni une victoire, ni une défaite, ni pour les Russes, ni pour les Ukrainiens. Et ça va être quelque chose de voilà, un conflit larvé comme les Russes les aiment. Et je pense que c'est un tournant, mais juste un tournant vers une pause, pas vers une victoire.
Non, parce que j'espérais pas, évidemment, que les Ukrainiens aillent jusqu'à Moscou, mais je me demandais si la fuite en avant, d'abord, c'est ce que vous semblez confirmer, que c'est une fuite en avant de la part de Poutine, et s'il ne va pas y avoir, au niveau de l'état-major russe, des décisions prises à son encontre, même s'il tient le FSB à fond et que le FSB tient tout, y compris l'armée, etc. C'est la question que je me posais. Après, quand même, le statu quo, ce serait effrayant. Alors vraiment, j'en veux pas. Mais c'est pas dit, parce que si la Russie n'y arrive pas, ça veut dire qu'elle a perdu quand même. Et c'est pas un statu quo. Excuse-moi, Laurent, la question, je la précise. Si elle n'y arrive pas, ça veut dire que si l'Ukraine a complètement conquis son autonomie, son indépendance, et son autonomie de décision internationale et européenne, bon, bah, c'est la défaite de la Russie.
Mais alors justement sur cette question de défaite ou victoire, il y a quelque chose en fait, parce qu'on y a beaucoup réfléchi et on a lu notamment le livre de Tetiana et Volodymyr, La vie à la lisière, et leur dernier chapitre est très instructif de ce point de vue-là, parce qu'il parle précisément de qu'est-ce que veut la Russie, qu'est-ce que veut Poutine dans cette guerre. Et elle dit que ce n'est pas tant qu'ils veulent gagner la guerre, qu'ils veulent faire souffrir, en fait.
Oui, c'est ce que tu
expliques. Et je pense que nos concepts, qui sont des concepts de, comment dire, nous avons une perception de la guerre qui est, voilà, tu es gagnant, tu es perdant, tu es l'agresseur, tu es l'agressé. Mais en fait, je n'ai pas l'impression que les Russes, ou du moins Poutine, aient en fait ces concepts à l'esprit. En fait, et ça rejoint ce que vous disiez, Anne et Laurent, à savoir que c'est un statu quo, mais c'est un statu quo qui n'empêchera pas quelque part des actions de terrorisme régulières qui auront pour but, en fait, de terroriser la population et pas tant d'avoir des gains militaires. Parce que, quelque part, c'est déjà ce qui se passe depuis quelque temps.
Oui.
C'est de faire peur, de faire souffrir, de marquer dans la chair symbolique et non symbolique le territoire, etc. etc. Et ça, moi, j'avoue que j'en ai grandement peur, parce que c'est quelque chose, en fait, c'est une espèce de... C'est une chose, en fait, qui s'insinue partout, qui est présente en... C'est qui ne dit pas son nom. C'est une situation très étrange. Et je pense pas qu'on... Peut-être que ce serait un soulagement parce qu'il y aurait peut-être moins de morts factuellement, mais en fait, c'est la terreur permanente, quoi. C'est la peur qui devient la loi, quoi.
Une ambiance, les possédés de Dostoïevski, quoi. Vraiment, ces espèces de fiels qui circulent comme ça...
Donc, enfin, ça vient vraiment faire écho avec ma dernière lecture où je me suis dit, c'est vrai que on voudrait en fait avoir ces concepts à l'esprit, mais ce ne sont peut-être pas les bons. Il faut changer en fait de. On vous entend plus, Anne et Laurent.
Mais j'apporterai quelque chose à ce que dit Olive, et j'ai pas du tout. Béryl, c'est ma sœur, elle vient de me parler. ce que dit Olive, je crois que les deux se combinent et overlap. C'est pas contradictoire. Il y a quand même une dimension purement tactique, stratégique, isoler une ligne de front, arrêter une avance, ça existe toujours. Et puis surtout reprendre du terrain, reconquérir du terrain, et puis surtout construire une indépendance militaire telle que l'Ukraine fait quasiment plus
que ce qu'elle veut, comme voilà. Tu pointais, et Jean-Philippe. Et donc, je pense que les deux, alors ce que dit Olive, la dimension génocidaire, ça c'est évident, le nihilisme, le complet, ça ne disparaîtra jamais de cette mentalité, et puis alors, certainement pas de Poutine, mais je crois que les deux sont compatibles, et ce qui est vraiment, moi, c'est une ligne de curiosité, et je ne sais pas encore, je ne peux pas répondre à la question, mais c'est vraiment une question que je veux poser au contact sur place, c'est, est-ce que si l'Ukraine continue d'avoir the upper hand, la capacité d'être en avance technologiquement sur les Russes, est-ce que c'est envisageable de reconquérir exactement comme Kherson qui a été conquis et libéré, libérer le territoire? Parce que ce que je ressens chez les Ukrainiens, ceux qui se battent, c'est qu'ils n'ont pas du tout baissé les bras sur l'idée de reconquérir. Et alors, évidemment, il y aura peut-être un temps où les choses vont un petit peu se figer pour que, en quelque sorte, les armées puissent se reconstituer. Mais si les Ukrainiens continuent d'être aussi brillants, parce qu'il faut bien dire que quand on se bat à 1 contre 5 et qu'on ne perd pas, c'est qu'on est vraiment meilleur que...
C'est génial, ouais.
Et avec cette créativité, et parce qu'ils ont, c'est un peuple d'ingénieurs, ouais. Donc avec cette créativité, s'ils continuent d'avoir cette avance, cette détermination, moi je les sens, mais vraiment, mais c'est les rencontres des officiers ou des soldats que j'ai rencontrés, je les sens tout à fait capables de dire, eh ben, il en ira du Donbass comme de Kherson, on va le libérer. Je veux dire, il n'y a rien qui, dans la mentalité ukrainienne, fait qu'ils diront, bon, bah, c'est comme ça. Surtout pas s'ils commencent à reconquérir du terrain.
Évidemment.
S'ils commencent à reconquérir du terrain, ils ont suffisamment d'audace, de témérité et d'intelligence pour se dire « Ah, mais attendez les gars, mais nous on va beaucoup plus loin que ça et on libère notre territoire ». Qui étaient les nôtres. Donc là, ça va être vraiment quelque chose. Alors, moi, évidemment, c'est la version optimiste, mais je ne la crois pas complètement irréaliste du tout au regard des rencontres, au regard de ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, je me dis, ça, c'est vraiment à vérifier. Est-ce que si le terrain se fige parce que Poutine comprend que là, vraiment, il commence à reculer, que c'est une humiliation, donc il va chercher la paix un petit peu comme Trump, chercher la paix à tout prix, est-ce que les Ukrainiens seront contents ou est-ce qu'il y aura une frange dans l'armée qui dira, hein, ceux d'Azov, ceux qui sont en train de reconquérir 100 km carrés, etc., les invincibles en quelque sorte, est-ce qu'eux vont dire, non mais attendez, pourquoi on s'arrête?
Pourquoi on s'arrête?
Non mais c'est pas ça l'histoire. C'est...
Voilà, on va discuter finalement, on veut bien discuter, etc. Non, c'est non, ce sera c'est jamais. Et en plus, ce qui est formidable en ce moment, c'est que justement l'action militaire ukrainienne dans la profondeur vers la force, le matériel militaire russe est incroyable. Et eux, au moins, ils ont une force de destruction. Donc de la source du mal, donc voilà, je parle des raffineries, des entreprises de drones, etc. Qui alors là peut vraiment donc les mettre à terre. Et donc à ce moment-là, d'un coup, on va dire, Monsieur Zelensky, écoutez, on va discuter. Il faudra jamais dire oui.
Non, mais alors ça, on est d'accord qu'il n'y aura pas de guerre tant qu'il n'y aura pas de paix. Mais là, je pense qu'on est tous d'accord qu'une paix, on est tous contre l'idée d'un gel et puis on s'arrête là. Et puis personne n'y croit. Enfin, en tout cas, nous ici, et personne ne croit que s'il a le Donbass, et cette partie du Donbass, bon, bah, il s'arrêtera là, il sera content, etc. Ça, c'est absolument inenvisageable. Par contre, la question, c'est est-ce que la frange la plus audacieuse de l'armée ukrainienne est prête à aller beaucoup plus loin et reprendre le territoire. Parce que s'ils commencent à créer une dynamique très très positive en cohérence avec le nouveau ministre de la Défense qui est aussi très très bon et quelques stratèges qui sont exceptionnels tactiquement, moi je ne les vois pas s'arrêter. Je ne sais pas, peut-être que je suis trop optimiste, mais c'est vraiment quelque chose que je devrais vérifier en juillet.
Alors Valérie, et après moi.
Il me semble aussi que le bombardement de Moscou a complètement traumatisé les Russes. Enfin, nous, on a eu cette perception-là, que d'un coup, ils se disaient « Ah mince, on n'est pas invincible, on n'est pas loin de tout ça ». Est-ce que Zelensky n'a pas intérêt à recommencer un petit peu? Parce que j'ai l'impression que ça l'a déstabilisé énormément, ça, le rapport de force.
La deuxième chose que je voulais glisser dans la continuité de ce que vient dire Valérie, c'est que ce que vous êtes en train de résumer, Il faut quand même qu'on se rende bien compte, on est en train de constater que ce pays, cinq fois moins nombreux et de superficie bien moindre qu'un géant, développe, c'est l'humain qui est coincé contre le mur et qui développe une ingéniosité extraordinaire, qui est désormais à la pointe de tous les armements, au point que même le pauvre Trump va être obligé de demander des drones et des antimissiles ukrainiens. Ça dit quelque chose sur l'être humain en général.
Complètement.
Ce que vous dites sur leur courage, sur le fait qu'ils n'abdiqueront pas, sur le fait que c'est quand même emblématique de toute situation humaine. Quand il y a une, on a l'impression que quand il y a une telle injustice, que tout d'un coup la dignité devient géniale, inventive. Oui. C'est pas seulement la dignité sacrificielle, oui. C'est une dignité combative, ingénieuse, comme tu l'as dit, David, ingénieuse. Oui.
Et poétique, je tout à fait
et poétique, culturelle, comme vous êtes en train de le montrer par vos textes, vos reportages et tout. C'est quand même très, très important sur le plan de la vision de l'humanité en général. Quoi.
Absolument.
Et je pense que, encore une fois, et comme toujours, ça nous oblige de plein de points de vue différents, oui. En fait. C'est-à-dire qu'on peut, saluer la stratégie, on peut saluer tous les aspects militaires, bien évidemment, etc. Mais l'aspect à côté qui est celui de culturel ou de la pensée, il y a une pensée vive, il y a une pensée qui est extrêmement active et qui est extrêmement réactive, etc., etc. Moi, j'en suis vraiment extrêmement admirative parce que on ne peut pas toujours avoir les deux. C'est assez exceptionnel d'avoir les deux quand même. On peut avoir un peuple qui déjà... saluons-le, lutte pour exister, etc. Mais c'est encore autre chose de nourrir une réflexion, en fait, où ils ont cette capacité de réfléchir sur ce qu'ils sont en train de faire. Et pas seulement sur ce qu'ils sont en train de faire, ils sont aussi en train de réfléchir aussi pour nous. C'est-à-dire qu'ils nous posent aussi la question à nous, mais qui êtes-vous, que voulez-vous ? Êtes-vous prêt à faire ceci ? Êtes-vous prêt à faire cela ? Et je pense que c'est aussi ce qui les rend un peu insupportables pour certains qui auraient bien voulu que il en soit décidé en 3 jours. Franchement, admiration totale et grande modestie, je pense, de notre côté en observant ce qui se passe, quoi, ce qu'ils sont en train de faire.
Ouais. Un petit truc pour rebondir sur ce que tu dis, Olivia, c'est assez fascinant parce que sur l'ouverture spirituelle des Ukrainiens, à la Moïla, qui est l'université nationale de l'Ukraine, il y a 6 mois, ils ont ouvert le département d'études russes. Et c'est pas du tout pour faire un forum de propagande anti-russe et etc. C'est juste pour réfléchir sur le problème. Qui est l'adversaire ou l'ennemi, plutôt l'ennemi. Mais c'est symptomatique, quoi. Enfin, je veux dire,
pas que ça devienne un tabou, parce que finalement, donc il faut connaître ce qui est en face de soi. Et moi, je rajouterais simplement par rapport au Donbass, donc surtout à la Crimée aussi.
À la Crimée,
oui. J'aimerais avoir, Anne et Laurent, votre sentiment sur l'idée d'une reconquête. Est-ce que ça vous paraît irréaliste ou paraît réaliste ?
Alors, Crimée, quand on en parle, les gens disent, peut-être attendre un peu longtemps, je pense qu'il y a un facteur qui est très important aussi, donc c'est la détermination des Ukrainiens, mais c'est aussi les conditions de vie des populations occupées dans le Donbass.
Ouais.
Parce que c'est des populations qui, il y a énormément de villages ou de villes, c'est sans électricité, sans eau, etc. Il y a même, a priori, des tentatives un peu d'essayer d'empêcher même qu'il y ait de la nourriture qui arrive, donc une espèce de... on essaie un peu de les tuer sur place. Donc peut-être que ça ne va pas simplement venir de l'extérieur. C'est-à-dire que ces populations-là, c'est des populations ukrainiennes, même s'il y a toute cette histoire un peu compliquée de Donbass. Mais quand on a vécu ça, normalement, on finit par se révolter et puis par avoir l'envie de libérer peut-être de l'intérieur. Parce que je me dis, les conditions de vie sont tellement difficiles. Voilà, les tortures et tout ce qu'on veut, les déportations des enfants. Donc ça c'est un facteur, parce qu'on imagine l'Ukraine qui avance, mais il y a aussi ce facteur-là sur place.
Complètement. Et il y a même un réseau de résistants à l'intérieur des territoires occupés. Il y a des actes de résistance exactement comme sous les nazis. Il y a des réseaux, ils se sont composés comme la résistance française, c'est-à-dire ils se connaissent très très peu pour pas se mettre en danger les uns les autres. Mais il y a une résistance ukrainienne à l'intérieur des territoires occupés dont on parle pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que ça nous gênerait trop.
Peut-être pour les protéger aussi. Peut-être
pas le droit d'en parler encore parce que même on a lu là il y a des opérations. C'est pas opération spéciale parce que c'est le terme qu'emploie Moscou, mais il y a des opérations extrêmement audacieuses. Qui arrivent, voilà, qui franchissent les marais, etc., donc qui arrivent en territoire
occupé. Ça participe de mon sentiment que les Ukrainiens ne lâcheront pas le Donbass. D'abord parce qu'ils savent que lâcher, ça ne veut rien dire vis-à-vis de Poutine, il n'y a pas de deal possible. Donc pourquoi lâcher? Et deuxièmement, parce que s'ils ont une avance technologique qui leur permet de battre les Russes, eh ben, ils n'ont aucune raison. Aucune raison de s'arrêter.
L'important, c'est que la population sur place, parce que voilà, quand même, il y a des gens qui n'étaient pas trop sûrs. On est un peu frères avec les Russes, etc. J'espère qu'après, voilà, après avoir vraiment tâté de ce que c'était que d'être sous occupation russe, il y aura plus du tout ce doute qu'il y a pu y avoir dans certaines régions.
Ouais, peut-être. Ouais. Mais alors, j'ajouterais juste quelque chose. J'étais peut-être assez pour pessimiste, etc. Mais enfin, reprendre le Donbass et reprendre la Crimée, c'est plus facile. Mais reprendre le Donbass, ça va être des pertes humaines qui sont importantes. Quand on passe à l'attaque, on perd plus.
Ça, c'est vrai.
C'est pour ça que les Russes attaquent et ils perdent. Donc les Ukrainiens, d'accord, il y a un ratio d'un sur cinq, mais c'est possible que le ratio s'inverse dès que les Ukrainiens vraiment repasseront à l'attaque. Je pense que une victoire territoriale sur l'Ukraine n'est pas pour demain, ça tout le monde le sait, mais surtout elle ne peut pas s'accompagner. Il lui manque deux choses. Premièrement, il lui manque un appui occidental massif, tant financier que militaire, et technologique et industriel, tout ce qu'on veut. Et deuxièmement, il lui manque l'écroulement pur et simple du système militaire ou industriel russe. C'est-à-dire que tant que la Russie aura une raffinerie qui fonctionnera, la reprise du Donbass n'est pas envisageable. Mmh. Et j'estime que... Jean-Philippe tout à l'heure disait le point de bascule. Quel est le point de bascule? Est-ce qu'on a un point de bascule? C'était la question.
Oui.
Oui, un point de bascule, mais j'estime que ce n'est pas le point de bascule décisif. On attend la grande erreur de Poutine, c'est-à-dire qu'on attend que sa méchanceté et puis son caractère diabolique lui fasse faire la mauvaise action. Et à mon avis, la mauvaise action, ce serait d'envoyer quelque chose sur les Baltes ou alors une attaque sur les voisins russes proches, la Finlande, les Baltes, plutôt les Baltes. Qui décide vraiment les Occidentaux, plutôt les Européens en l'occurrence, à s'investir à fond dans la guerre. Et moi, j'attends ça. L'erreur fatale. Mmh. Parce que si les Ukrainiens, bien sûr qu'ils se battront, etc., mais ils ne pourront pas non plus reprendre le Donbass jusqu'à Luhansk. Enfin, tout seuls, ils le peuvent, ils sont courageux, etc., mais il manque encore beaucoup de facteurs pour ça.
Mais par contre, est-ce que vous ne craignez pas, de la part de Poutine, moi depuis le début, je crains l'utilisation, comme ils disent, du nucléaire tactique, c'est-à-dire très localisé, mais terrible quand même. Et alors est-ce que vous ne craignez pas ça?
Moi, je n'y crois pas trop.
Je parle du nucléaire tactique dans la théorie stratégique russe, hein, c'est-à-dire pas la grande explosion, mais le truc qui nettoie quand même un terrain, quoi. Hein.
C'est ça, de quoi raser au sommet ou le centre de Kharkiv, bien sûr.
Voilà. J'ai jamais vraiment compris comment est-ce qu'on pouvait même parler nucléaire tactique.
Non, mais je parle de... excuse-moi, Olivia, je parle de la terminologie stratégique russe.
Oui, non, mais bien sûr, Jean-Michel, évidemment, c'est pas du tout par rapport à toi. Je dis simplement le terme en lui-même, enfin, il a quelque chose d'extrêmement pervers, le nucléaire.
Bah, mais justement,
il existe, c'est un terme technique.
Oui, non, mais il est pervers.
Tu peux remplacer pervers par russe, bah, j'en suis un peu là, justement.
Non, mais il décrit
j'ai bien compris, mais ce qu'il décrit est pervers en fait.
Le langage et l'image de son être, mais par rapport au nucléaire, nous on n'y croit pas trop parce que il y a plusieurs facteurs, il y en a deux.
Premièrement, parce que l'usage du nucléaire, il est conditionné à des règles internationales. Bon, on imagine ce que ça vaut pour les Russes, mais directement, pragmatiquement, s'il utilise l'arme nucléaire contre un pays, en l'occurrence l'Ukraine, qui n'a pas cette arme nucléaire, il viole une convention tacite entre les possesseurs de l'arme nucléaire. Et les premiers à bicher seront les Chinois, qui vont se dire... les Russes utilisent l'arme nucléaire contre l'Ukraine, donc l'Ukraine va avoir le droit de développer sa propre arme nucléaire en 5-7. Mais les Chinois ne veulent pas que Taïwan, par exemple, puisse développer même leur arme nucléaire, alors qu'ils en sont très capables, ils peuvent faire ça en quelques années. Et donc, en fait, je pense que si Poutine s'abstient, c'est que...
c'est la Chine qui le tient, hein.
Bien sûr.
Ça, c'est clair.
Clair. Et deuxièmement, là, je serai bref, la deuxième...
C'est la ligne rouge de la Chine.
C'est ça.
Et Dieu sait s'il a besoin de la Chine.
Ah, complètement. D'ailleurs, il est en train de se vassaliser à la Chine. C'est grandiose. Enfin bref, c'est... Mais surtout, en plus, quels seraient les usages... si on cautionne le grand eurasisme, messianisme, machin de Poutine, le grand système un petit peu fumeux comme ça... Sur quoi il taperait avec une bombe nucléaire ? Sur Kiev ? Mais Kiev, c'est le berceau, entre guillemets, de la race russe, etc. Il frapperait quoi sur... Enfin, j'ai du mal à savoir sur quoi il taperait, quoi. Enfin...
D'accord. Bon, ça, je trouve que ce sont deux éléments de réponse très, très précieux. On voulait vous dire quand même une chose, chers amis, et c'est vraiment l'amitié qui parle. On a vraiment peur pour vous, et on a peur d'autant plus que vous avez pris beaucoup de risques jusqu'ici, mais là, il y a une, comme on l'a dit au début de notre conversation, il y a une rage de perdant et de perdu chez Poutine qui est prêt à tout. C'est vrai. On rentre la tête dans les épaules et on a des pressentiments, on a peur. Ben, d'ailleurs, tu te souviens, David, je te l'ai écrit à un moment et tu m'as répondu très amicalement. D'ailleurs, je t'en remercie, mais je l'avais senti, la menace dans laquelle tu as été. Vous êtes tous les trois et tous les quatre, parce qu'Olivia te rejoint aussi et tout. Alors, je sais pas, on n'est pas comme les amis qui disent « vous devriez pas hein, », c'est pas ça. Mais enfin, on se pose la question, on veut discuter avec vous de la question du courage, parce que le courage peut aussi devenir cornélien presque, c'est-à-dire non, je ne lâcherai pas, je n'abandonnerai pas, il ne s'agit pas d'abandonner du tout, mais quand même...
La Poutine annonce un bombardement intensif à Kiev, donc est-ce que ça vaut le coup d'y rester? C'est ça notre appréhension, quoi.
C'est vraiment. Enfin, moi, je crois connaître déjà la réponse de Anne et Laurent parce que on en a pas mal parlé.
J'imagine.
Évidemment, c'est archi personnel, mais pour moi, c'est hors de question de pas continuer de travailler sur place. C'est vraiment hors de question. Et puis, j'aurais en plus le sentiment de ne plus voir les gens qui me sont vraiment chers là-bas et de les, d'une certaine manière, de les abandonner. Ça me serait insupportable. Et Kherson, c'est vrai que la dernière fois qu'on y a été, c'était vraiment, vraiment... C'était bien pire qu'avant. Mais c'est ça qu'il faut voir, parce que c'est ces vieilles dames qui marchent et on doit avoir le même courage qu'elles, au minimum. Les vieilles dames, les dentistes, les gens qui font leur jogging à 5 heures du matin à Kherson. Bon, alors c'est ça dont il faut... Bon, moi, je me suis toujours dit que la seule façon d'être digne de cette épreuve, c'était de partager la chose qu'ils vivaient. Sinon, déjà que j'ai le sentiment que je suis dans une situation archi confortable parce que je peux rentrer, je peux voyager, je peux prendre l'avion, je peux revenir dans un pays extrêmement calme. Donc, c'est déjà un luxe terrible, mais si on ne peut pas partager ces épreuves, alors j'aurais aucune, moi personnellement, aucune légitimité pour même écouter les gens qui me parlent.
Même une petite pause de 3 semaines, 1 mois, non ?
Si tu fais comme ça me manque, là on va s'organiser parce qu'on a une superbe invitation avec la diaspora ukrainienne à Montréal. Et donc ça, on va partir en juin et c'est pour ça que je ne rentre pas, mais ça me manque. C'est terrible de dire ça, mais l'Ukraine me manque toujours. Et je sais que Laurent et Anne C'est exactement la même chose.
Alors, je tiens à préciser ma question. Il ne s'agissait évidemment pas...
Oh, non, absolument aucune ambiguïté.
Je m'attendais à ta réponse, David.
Je sais.
Mais ça nous meule quand même, parce que j'aurais ta réponse aussi. Mais il ne s'agit pas de lâcher, si vous voulez. Vous jouez un rôle considérable et vous allez continuer à le jouer. Mais est-ce qu'il n'y a pas, comme le disait Valérie, peut-être à un moment une pause et ensuite revenir pour être d'autant plus efficace par rapport aux êtres que vous connaissez, par rapport à tout ce que vous nous transmettez, à tous. Voilà. Bon,
par rapport à, par rapport à nous, donc, oui. qui sommes sur place tout le temps, on ne quitte pas le pays. Par exemple, déjà, par exemple, s'il y a des gros bombardements et puis des attaques de missiles, etc., les gens vont dans les métros. Le métro à Kiev, un des métros les plus profonds du monde, donc c'est un merveilleux abri anti-bombe. Mais ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que déjà, je pense que bien sûr, il y a un risque, mais quand on dit aux gens partez. Bon, déjà, pourquoi partir ? Parce qu'ils n'ont pas... Partez, nous allons tirer sur les civils, d'accord ? Mais partez, nous allons tirer sur des cibles militaires. Ben non, il n'y a pas de raison qu'on parte. Et ensuite, donc ça, déjà, ça veut dire qu'on rentrerait dans cette logique. Et par exemple, à Kiev, il y a des enfants, il y a des écoles, il y a beaucoup de femmes enceintes en ce moment. C'est dur, bien sûr, mais les gens sont prudents. Et surtout, c'est très important, parce que sinon, ça serait...
une désertion.
On laisse le pays finalement. Si tous les étrangers qui peuvent un peu relayer ce qui se passe ici, toutes les ONG qui essaient de travailler justement pour aider les Ukrainiens en partent, c'est du pain béni pour Moscou.
C'est vrai.
Bien sûr. C'est comme ça.
Mais ce que tu dis, c'est vraiment. Moi, je le prends comme vraiment de l'amitié, pas du tout du chaperonnage ou je sais pas quoi. C'est évident. Et d'ailleurs, en tout cas, moi, personnellement, tu me comprends très, très bien et tu me perçois très, très bien, à tel point que quand effectivement, il s'est trouvé vraiment bizarrement dangereux, tu l'as senti. Vraiment, je le prends comme une geste d'amitié, mais je pense que ce que disent Anne-Laurent, c'est... J'ai toujours le sentiment que ce qui fait notre amitié, c'est pas simplement une affinité sur les valeurs, sur la culture, sur l'amour de l'Ukraine, etc. Mais c'est vraiment sur cet enjeu-là, justement. Ouais. Et je comprends tellement leur attitude et je comprends tellement leur réponse humaine à cette situation. Et je pense que, après, évidemment que je rencontre ici des Ukrainiens qui n'ont jamais été en Ukraine depuis que la guerre existe parce qu'ils ont peur. Bon, alors ça fait un peu bizarre parce que moi je ne suis pas Ukrainien, j'y vais tous les mois, etc. Et ça fait un peu bizarre, mais en aucun cas tu aimerais les culpabiliser ou leur dire vous n'êtes pas assez courageux. Ça n'a aucun sens. Oui. C'est vraiment la réponse la plus individuelle qu'on puisse avoir face à cette chose-là. Et je pense, ce qui me met en intimité, qui m'a mis en intimité avec Anne Laurent tout de suite, c'est cette réponse-là. Elle me semble naturelle, mais elle n'est pas disqualifiante pour les autres. C'est ça que je veux dire.
C'est ça que vous exprimez d'ailleurs aussi bien tous deux, David et Olivia et Anne et Laurent. C'est ce que vous exprimez et que tu viens de résumer dans une phrase. Tu fais finalement de cette question, qui est une question universelle, puisqu'on est en train de dire qu'il se passe un grand moment de l'histoire humaine, comme il y a eu naissance d'une nation, comme il y a eu aussi la création de l'État d'Israël, la Palestine, enfin les choses comme ça. C'est un immense moment qui retentira dans les siècles. Et en même temps, tu dis que tu le vis, vous dites que vous le vivez individuellement. Et moi, je me souviens d'une conversation il y a 3 ans et demi, je t'avais dit, mais moi, à la place des Ukrainiens, si on doit céder, je préfère crever. Je préfère crever, quoi. Crever plutôt que de céder, quoi. Donc, c'est ça que vous écrivez, que vous allez de plus en plus écrire et que vous devez transmettre, surtout dans un contexte, je parle de la langue française, donc je parle des petits Français, et là, je dis les petits Français. Petits Français. Voilà.
Et si on revient sur ce que je disais tout à l'heure sur le bombardement de Moscou, Est-ce que le peuple russe ne peut pas justement se retourner contre Poutine ou par peur qu'on lui ait menti, qu'il découvre l'ampleur des dégâts, qu'il se sente menacé? Il n'y a pas quelque chose qui peut se fissurer là quand même?
Monsieur Valéry, ce dont moi, vraiment, si je pense que Poutine est à un tournant, c'est pas en raison des Ukrainiens, même si évidemment le fait qu'il n'arrive pas à avancer est très important. C'est pas en raison du peuple, c'est vraiment en raison de son cercle fermé, les oligarques, la petite élite corrompue, mafieuse, qui n'y trouve plus son compte. Et c'est ça qui pourrait précipiter sa chute. Je pense que ce qu'il redoute par-dessus tout, c'est de ne plus avoir le soutien pour X raisons de l'élite qui est autour de lui, l'élite mafieuse, qui n'y gagne plus, qui un petit peu comme le cercle rapproché de Trump. Ah oui, mais là, on ne fait plus de business, c'est plus possible, il faut que tu arrêtes la guerre. Bon, et ça serait quelque chose de ce type-là, je pense, plus que le peuple qui s'élève. Alors, c'est sûr que vu qu'il n'a plus personne à recruter, ça devient vraiment grotesque et ridicule. Donc c'est sûr que quand même, malgré tout, le peuple est impliqué. Mais peut-être beaucoup moins, c'est peut-être beaucoup moins le peuple qu'il redoute que son cercle rapproché qui n'y trouve plus du tout son compte.
Alors ce qui est intéressant aussi...
Est-ce que, qu'en pense Laurent?
Oui.
Pardon, Jean-Philippe.
Vas-y Laurent, excuse-moi. Après,
Non,
juste pour cautionner, c'est-à-dire que, attendez, on est en Russie quand même, hein, c'est-à-dire que le peuple, c'est le zéro, et puis l'État, c'est l'absolu, hein. C'est pour ça qu'en fait, c'est impossible qu'il y ait, en tout cas, moi, je mise pas 50 centimes d'euros sur une révolte populaire ou n'importe quoi en Russie. Le FSB, la police est assez bien chapitré pour bien broyer ça sous la botte. Le peuple n'a rien à faire là-dedans, c'est de la chair à canon. Ça partira pas de là. Même si on regarde dans l'histoire russe.
Est-ce que tu penses qu'un effondrement du cercle poutinien vraiment, est possible?
J'avais, bien sûr.
Une trahison, un renversement du FSB, quelque chose de bien soviétique, quoi.
Un concurrent, quoi. Mais c'est un Ukrainien qui nous a soumis cette hypothèse-là, et je la trouve de plus en plus intéressante. Il faut savoir que le FSB est tout puissant, c'est un organisme d'État, il est dans la main de Poutine comme tout. Il y a des oligarques qui, il y a aussi en Russie beaucoup de milices privées. Alors la plus célèbre, c'était Wagner, mais il y en a plein d'autres. Hein. Le grand frère, comment ça s'appelle, ces frères noirs,
les frères blancs.
Ah, les frères blancs,
Ils sont en Afrique.
C'était l'un ou l'autre, hein, Laurent.
Oui, mais c'est ça. Il y en a plein, en fait, c'est pas le seul, c'est pas les seuls, parce qu'en fait, les armes sont répandues, et si on a un petit peu plus, si on a un petit peu plus d'argent, on peut très bien monter une milice. Ouais. Donc peut-être que s'il y a une révolte interne dans le milieu des oligarques, elle passera par une révolte interne des oligarques qui ont des milices privées.
Voilà, c'est ça.
Pas spécialement.
C'est un scénario, mais.
Laurent, d'une certaine façon, tu as répondu à la question que je m'apprêtais à poser en mettant en parallèle, au fond, ce qu'on a dit sur l'esprit des Ukrainiens qui, face à cette situation à laquelle tout peuple pourrait être confronté, révèle le génie et l'ingéniosité à tous égards. Et je le relis et l'oppose à ce que Olivia a rappelé sur la rage de détruire, qui fait partie, et Laurent l'a dit aussi, il a esquissé au début de sa réponse, la civilisation russe, quoi. La civilisation russe, c'est une civilisation où il n'y a pas de révolte. Il n'y a jamais eu de révolte. Il n'y a eu que les bolcheviks qui étaient les mencheviks. Donc, donc c'est quand même incroyable. Il y a deux sur un plan, je dirais presque, d'anthropologie politique, il y a quelque chose qui se tisse de manière extrêmement nette.
Je vous
pose la question, quoi. Est-ce que vous voyez ça comme ça, vous aussi, quoi?
Ben absolument, oui, bien sûr.
Et d'ailleurs, personnellement, absolument aussi.
Continuez.
Quoique.
Absolument aussi, et c'est quelque chose qui dépasse les circonstances. C'est pour ça que, Volodymyr en parle dans son livre, et Tatiana, c'est quelque chose qui dépasse les circonstances politiques. Parce qu'évidemment, il peut y avoir des circonstances politiques qui empêchent l'émergence ou alors une immaturité, etc. Ouais. Mais on sent bien que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas encore suffisamment avancés dans leur processus de prise de conscience juridique, qu'il y a de l'universel, qu'il y a du droit, qu'il y a de la loi, que voilà. Ouais. Non, c'est vraiment quelque chose qui décrit exactement ce que tu dis, qui relève de l'anthropologie, oui, de l'anthropos, oui. Et ça veut dire que c'est intéressant parce qu'avec Artem Chapai, on avait cette discussion, il me disait, nous, et alors c'est vraiment le plus gauchiste des soldats que j'ai rencontrés, parce qu'ils sont quand même plus à droite qu'à gauche. Hein. Mais lui est vraiment une formation comme ça, presque anarchiste, enfin un courant qui existe depuis très longtemps en Ukraine, mais qui est vraiment de gauche. Et il m'a dit, nous, notre modèle, ça doit être Israël, c'est-à-dire de continuer de vivre constamment. Constamment avec un ennemi à nos portes. Ouais. Alors, on doit être une nation en armes, constamment, parce que la Russie ne disparaîtra pas. Ouais. Et ce que tu dis là sera notre tragédie pour des siècles et des siècles, même si on gagne cette guerre. Ouais. Donc, on ne peut pas s'offrir le luxe d'être une Suisse. On ne pourra jamais, nous, Ukrainiens, si on veut rester Ukrainiens, on ne pourra jamais s'offrir le luxe d'être un pays européen normal. Et c'est d'ailleurs, je pense, ce qui freine la diplomatie européenne. Moi, j'ai toujours pensé qu'il suffisait de faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN pour qu'il n'y ait plus de problèmes et qu'il n'y ait plus de guerre. C'est beaucoup plus efficace que tout. Il fallait les accueillir dans l'OTAN aussi rapidement que possible. Et là, qu'est-ce qu'il aurait fait, Poutine? Il aurait envoyé des trucs en sachant qu'il allait être détruit lui aussi. Ben, c'est la dissuasion qui rejouait. Et elle est faite pour ça, la dissuasion nucléaire. Donc, on n'a pas eu les couilles et le courage de les accueillir tout de suite. Bon, alors donc on a une guerre et quelque chose qui va saigner l'Europe pour des décennies et des décennies.
Mmh. Ouais.
Qu'est-ce qu'on pense, Olivia? David vient de dire.
Voilà. J'acquiesce, j'ai l'air d'acquiescer bêtement, mais...
Mais non, c'est pas ça.
Tu veux dire, non, précise, sur quel point, parce qu'on en a quand même, vu pas mal là. Lequel en particulier?
Ben cette question de confrontation anthropologique entre la civilisation russe et la civilisation telle que l'Ukraine l'incarne, la civilisation des peuples qui ont toujours, au fond, constitué leur identité à partir de la dignité et de la liberté, quel que soit après gauche-droite, oui. Voilà.
Absolument.
Moi, je pense que dans le cas de sur cette question-là, en fait, je pense qu'on nous a beaucoup vendu le fameux cette espèce de récipient vide qui était la fameuse âme russe
sur laquelle qui est terrible.
À se pencher et à dire l'âme russe trois petits points avec le soupir et mouvement de manche l'air de dire on a tout dit quand on a dit ça. Mmh. En fait. L'âme russe, je pense, a toujours été le cache-sexe quelque part de quelque chose qui est d'une cruauté et qui est d'une violence, d'une violence terrible et dont on voit aujourd'hui, en fait, c'est-à-dire que c'est une violence à plusieurs piquants, en fait, parce que même quand un russe, pour prendre l'exemple de ce réalisateur qui a reçu ce prix à Cannes, même quand avec la meilleure volonté du monde, il va vouloir montrer à quel point il est sensible au sort des Ukrainiens et des gens qui sont en train d'être tués, etc., etc., il ne peut pas s'empêcher quelque part d'essayer. Et c'est ça. Et c'est en ça que c'est un impérialisme qui est d'une perversité totale. Il ne peut pas s'empêcher quelque part de nous entraîner, de faire comme si tout le monde acceptait les codes et les rapports de force qui sont les rapports de force de la Russie et de la fameuse âme russe. C'est-à-dire, chialons un bon coup.
Implorons
le suzerain. Et puis, on est tous d'accord, on a tous bien envie de pleurer. Sauf que ça, ce sont des codes. Jean-Michel, tu parlais du sentimentalisme. Qui est d'une cruauté et d'une violence sous-jacente, en fait, qui est absolument insupportable. Et c'est d'autant plus insupportable qu'en fait, c'est une forme de... Pour moi, ça rejoint... Il y a une forme de religion derrière tout ça. Et évidemment, derrière, il y a aussi un terreau religieux extrêmement fort qui est, ça me rappelle le peut-être que tu n'es pas croyant, mais je vais prier pour toi. Mmh. Et de dire, mais c'est la première chose à respecter chez l'autre, en fait, c'est que peut-être qu'il ne partage pas tes propres ressorts intellectuels, psychologiques ou de croyances, etc., etc. Et moi, j'ai franchement l'impression, en fait, que quand on est face aux ruses d'un point de vue anthropologique, on a un système qui part du principe que, qu'en fait, on est tous prêts à être asservis et à, de manière totalement servile, rejouer ses rapports de force, vouloir se mettre sous la protection de quelqu'un ou vouloir devenir fort soi-même pour pouvoir asservir quelqu'un d'autre. Ils le présupposent, en fait. Ils le présupposent et ils veulent enfermer les autres
à être slave.
Totalement. Mais
ce qui est frappant...
Je ne sais pas pourquoi Olive persiste à t'appeler Jean-Michel.
Oui, je ne sais pas.
Mais oui, bon, plusieurs fois. Et moi, j'appelle Olivia Beryl, qui est le nom de ma sœur. Donc,
ça va.
Aujourd'hui, c'est très particulier.
C'est parce qu'il y a le M de Domecq. J'ai un petit problème, en fait.
Eh bien, appelle-moi Domecq, comme ma femme m'appelle... Ou appelez-moi Dom. Appelez-moi Dom.
Valérie, je peux t'appeler Stéphanie ce soir.
Voilà.
Non, ben, y a pas de raison. Hein.
Voilà. Alors, Olivier.
Non. Ah non. Ah non.
Alors, Olivia.
Par contre, Anne, c'est Anne. Ah là, c'est pas possible.
Ah, voilà.
Alors, Olivia, pour prolonger exactement ce que tu dis et ce que vous avez dit. Anne-Laurent et David, c'est là, en nous entendant nous parler, c'est là qu'on voit que pour arriver à comprendre, puisqu'on a bien dit qu'il s'agissait que nous avions une volonté de comprendre, un désir de comprendre par l'examen, comme tu le disais, Olivia, lors de notre première discussion, eh bien, décidément, on y est allé en tant qu'écrivain, enfin, en tant que gens qui essayent d'exprimer les choses, de trouver les mots. Et finalement, quand on entend nos discussions, il n'y a finalement que la littérature qui peut arriver à expliquer le mieux tous ces phénomènes. Parce que ce que tu dis sur l'âme russe, ce que tu rappelles de l'âme russe, Olivia, c'est exactement cet emboîtement de l'auto-humiliation et de l'humiliation qui fait ce qu'on a appelé la psychologie des profondeurs chez Dostoïevski. Et c'est exactement ça, et du coup, qui humilie... En s'humiliant soi-même, en se jetant dans le ruisseau, je suis un cloporte. Tu te souviens la fin du premier chapitre des frères Karamazov ? Il était méchant, point. Il était méchant et sentimental, point. Et il trouve ça drôle, Dostoïevski. Et les Russes trouvent ça drôle. Et ils font cap au pire. Et je pense que finalement, vous allez dire par la littérature, et vous êtes en train de le dire peu à peu au fil de vos textes, de vos interventions, que finalement, c'est la littérature qui permet le mieux de comprendre et qui permet le mieux d'éclairer les dirigeants politiques et de nous éclairer. Parce que, en fait, avec la littérature russe, on comprend très très bien ce qui se passe, finalement.
Complètement. Crime et châtiment, il n'y a pas de châtiment. Il n'y a que du crime.
Voilà.
Donc, c'est. Mais moi, je suis vraiment aussi à l'idée d'âme russe, parce que c'est juste un régime de violence particulier. Oui. Il n'y a rien de mystérieux. C'est un régime de violence qui est spécifique. C'est juste spécifique. Mais ce régime de violence qui consiste exactement à parler du crime et à se positionner dans la victime sans châtiment, en disant que le châtiment va arriver, mais en fait, il n'y a pas de châtiment, il n'y a que du crime, de ce qu'il est l'illustre à son dépendant, mais on parlait dans notre conversation qu'on va publier de Solzhenitsyn, et on peut dire que ce travers aussi, ouais. Et ce qu'a souligné Olivia en faisant ce petit éditorial sur Kip Desk,
Samantha,
c'est que même quand ils parlent de la paix, ils sont incapables de... autrement que d'une façon violente. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de mots pour exprimer correctement la paix. Ouais. Pour eux, la paix, c'est tous les chassons gris, on a tous souffert, donc tout est pardonné.
Oui.
Il n'y a pas de distinction.
C'est l'absolution, la paix.
Ils ne sont même pas capables d'envisager donc ils ne voient même pas. Le type, on lui aurait dit ça, mais attendez, ce que vous venez de dire, c'est scandaleux. Si je voulais une boucherie, non. Quand on défend sa femme et son enfant contre des envahisseurs, on ne se livre pas à une boucherie. Ça s'appelle la résistance, monsieur. Tu vois, et ce type de précision lexicale, ça leur échappe totalement. Ils nous regarderaient avec un air « mais je voulais bien dire, mais je… voilà, »
Avec en plus l'humiliation, l'auto-humiliation, « je suis dans le ruisseau », etc. Et tout.
Voilà, je suis en exil, vous savez, monsieur.
C'est d'une violence, c'est humiliation et d'une violence extraordinaire. C'est marrant parce que moi, j'avais, comme j'avais fait du russe, c'était mon père qui m'avait obligé à faire du russe, hein, c'est pas un choix. Bref, j'avais quand même, je connais quand même, j'avais quand même beaucoup lu la littérature russe et quand j'avais 20 ans, bon, Dostoïevski, ça m'avait beaucoup intéressé et je connaissais très, finalement, j'avais fini par connaître très bien. J'ai fait l'expérience il y a 10 ans d'essayer de relire. Je m'apercevais d'abord que je connaissais très bien. C'est pas pour dire ça, c'est pour dire en fait que ça me devenait insupportable. Ouais. Ça me devenait insupportable. Même l'idiot que je trouve être son roman le plus sauvable, hein, ça me devenait insupportable. Et il y avait ça, cette articulation, se servir de l'humiliation, de l'auto-humiliation pour humilier l'autre et pour mettre tout le monde dans le même panier, dans le même ruisseau.
Exactement.
Oui. Pardon, Olivia. Vas-y.
Non, non, pas du tout. En fait, j'étais en train de me souvenir, je dois l'avouer parmi vous, c'est que j'ai très peu lu, en fait, Dostoïevski. Et en fait, et pour des raisons qui sont des raisons presque physiques. Ouais. Le rapport, en fait, à cette littérature-là, j'ai toujours eu l'impression... Je préfère des textes secs, en fait, de fait. Voilà, c'est déjà, je vais plutôt vers une littérature sèche, en fait. Et j'ai toujours eu l'impression qu'on me braillait dans les oreilles, qu'on me parlait, qu'on détournait l'attention, qu'il se passait toujours des trucs, c'est toujours des grandes diffusions, etc., etc., etc. Et j'avais toujours l'impression, quelque part, qu'on essayait de m'enfumer. Je ne sais pas comment l'expliquer. Donc ça me faisait lâcher les textes. Et maintenant, je peux dire que peut-être, instinctivement, d'un point de vue physique, en fait, c'est un peu comme quand on sent le danger physique de quelqu'un, en fait, qui est extrêmement charmeur ou qui est extrêmement... Et qui, en fait, il y a une forme de prédation. Oui, c'est très étrange parce que maintenant que ce qui est en train de passer se passe, c'est-à-dire que quelque part les masques tombent et qu'on commence peut-être aussi à s'avouer qu'il y a une forme de littérature qui est peut-être une littérature problématique... ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus la lire ni quoi que ce soit, mais qu'il faut être aussi capable, on parlait d'examen, mais il faut être aussi capable d'examiner ce qui a peut-être pu séduire pendant des siècles, etc. Je me dis peut-être qu'il y avait un réflexe, en fait, qui est un réflexe presque animal, de se dire je ne veux pas être dans la main, en fait, de cette littérature-là, parce que je pense que la littérature, c'est pas le lecteur est actif et puis il lit un objet qui est passif. Il y a un phénomène d'imprégnation. Ouais. Il y a un phénomène, en fait, c'est vivant, c'est très mouvant, en fait, ce qui se passe entre l'objet livre.
Tu nous fais avancer, tu nous fais beaucoup avancer en disant ça. Je vous ai envoyé le dernier épisode du roman Notre Pensée et je suis revenu sur Céline.
Oui, c'est vrai.
Alors, c'est pas pour reparler de ça, vous le lirez.
Non, mais c'est vrai.
Vous le lirez quand vous aurez le temps, mais c'est exactement ce que tu décris. Il y a un moment comme ça, la fameuse histoire de la petite musique, mais pendant ce temps-là, on ne discute plus de l'enjeu, et ça occulte la médiocrité et l'insanité du personnage, hein, et de la vision du monde, finalement. Et donc, ce que tu dis là, c'est quelque chose qu'il faut qu'on développe par écrit dans nos textes, qu'on aille plus loin que ça. Ce grand réexamen qui n'est pas une façon de... C'est pas du révisionnisme historique, non?
Non, pas du tout. Mais c'est pas un tribunal.
C'est une liberté de lecture.
Exactement. La littérature, c'est quand même une compagnie aussi. Et parfois, on peut choisir d'être en compagnie de certains auteurs. On sait que ça va être difficile, on sait qu'on va souffrir parfois. Il y a des textes, je pense qu'on connaît tous des textes, on y a été une fois, on s'est dit, je l'ai fait, on y va à reculons. C'est vrai aussi des grandes œuvres, qu'elles soient cinématographiques ou visuelles, etc. Il y a des œuvres qui sont des épreuves, mais il y a des épreuves nécessaires. Et puis, il y a des œuvres qui sont des épreuves et on n'arrive pas à savoir pourquoi. Ouais. Elles nous mettent mal à l'aise, mais au bout d'un moment, il faut du temps, il faut aussi peut-être une forme de maturité. Et puis, il faut aussi que le monde avance tel qu'il est. Et parfois, c'est le monde qui nous apprend pourquoi on avait peut-être raison.
Et il faut aussi, il faut aussi le faire avancer par nous-mêmes.
Je pense que ça s'accompagne.
Ce que j'appelle dans mon texte sur Céline, les nouveaux contrats de lecture, un contrat de lecture n'est pas possible sans confiance lectrice dans l'homme qui lui parle.
Totalement.
Mais c'est intéressant ce que tu dis. Pardon, Jean-Philippe. Non, tu n'avais pas terminé. Pardon.
Non, mais tu avais cité, tu te souviens, la première discussion par visio que nous avons eue, David, tu avais cité Camus. Tu avais tenu à le citer par rapport à...
Ouais. Mais tu sais, il se trouve que j'ai par hasard, je vais tous les jours dans des charity shops quand je suis à Londres, j'adore ça, et je suis tombé sur une pléiade de Céline. Alors bon, je l'ai acheté, et j'ai relu le début de D'un château l'autre. Et c'est insupportable pour une raison précise, c'est que le type a été un antisémite, mais de la pire espèce, un salaud tel que on peut difficilement l'imaginer en pire.
Tu as vu dans son
antisémitisme, dans sa lâcheté physique, dans ses compromissions. Et qu'est-ce qu'il passe son temps à faire, à dire « mais moi, j'ai rien fait, pourquoi on m'en veut, pourquoi est-ce que tout le monde m'en veut, mais c'est incroyable, oui, c'est sans doute parce que j'ai du génie, voilà, etc. » Et donc, c'est quelqu'un, c'est très étrange, parce que la littérature ne fait jamais ça. En général, la littérature est toujours du côté de la compréhension de la dette. Qu'est-ce que c'est que d'être endetté, hein? C'est Kafka, c'est terrible d'être endetté, mais c'est ma condition, je suis endetté. Bon, hélas, quelqu'un, je ne dois rien à personne, tout le monde m'en veut, c'est terrible, etc. Et on a quelque chose, et c'est pour ça que je trouve que ta transition est très naturelle pour moi, on a quelque chose de totalement dostoïevskien. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de traitement, il n'y a jamais de loi, on n'a jamais à rendre compte de jamais de ce qu'on dit et de ce qu'on fait, on a juste à délirer sur sa subjectivité. Et c'est quelque chose d'insupportable.
Alors justement, je voulais quand même, je voulais juste glisser que je vous demande quand même de le lire, mon texte sur Céline.
Mais bien sûr,
Parce que quand tu parles de son rapport à... même en 46, en 50, en 60, par rapport à l'antisémitisme, c'est incroyable ce qu'il est capable de sortir.
Absolument.
Et finalement, j'avais sorti en 2011 un texte, Garcin me l'avait publié quand même, à propos de Céline, « Le verre était dans le style ». Ça a fait beaucoup de bruit, ça les dérangeait, mais ça rejoint ce que disait Olivia. Ça fait du bruit. Ce côté, j'ose dire dans mon texte, vous verrez, son côté à la Édith Piaf, quoi. Non. Je crois que par rapport à la littérature, il faut qu'on le dise, parce que si on le dit pas, c'est pas les Français qui vont le dire.
C'est vrai. C'est pas très français. On est quand même dans une position. Pardon, Laurent et Anne, vous vouliez dire. Tu voulais réagir sur Céline, je crois. Tu voulais réagir, Laurent, sur Céline, je crois.
Non, c'est pas ça. Céline est souvent Jean-Philippe est très attaché à Céline. On sait qu'il l'évoque souvent dans ses textes. Le procès de Céline semble être refait, mais il est très comparable à un auteur russe en fait. Je voulais revenir vraiment à la spécificité de la violence, c'est-à-dire qu'on est en face à des gens qui, tant politiquement qu'à tous les niveaux, sont violents, nous veulent du mal. Je pense que la sorte de dichotomie, Jean-Philippe répondait à ça la dernière fois dans son email, c'est-à-dire opposer Dostoïevski à Tolstoï, c'est-à-dire l'autoflagellation qui veut du mal à tout le monde et tout le monde est mal dans le même panier sous l'égide de Dieu, contre Tolstoï, l'anarchiste passif, plutôt sympa parce qu'il est proche des moujiks. Bon.
Laurent,
allez, vignette, Tolstoï, c'est bien.
Le sens de la synthèse.
Non, mais il y a cette idée-là, c'est-à-dire que il est repris par les Tolstoïens, c'est vraiment une école, c'est-à-dire que c'est une sorte de non-violence, etc. Oui. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit être absolument dépassé. Je voulais vraiment poser la question de la violence, c'est-à-dire que moi, c'était vraiment ce qui m'intéressait, c'est-à-dire que face à... Bon, bien évidemment, on sait que la non-violence a des limites, et puis on n'est pas des Gandhi romantiques, etc. Si on vient nous mettre un coup de couteau, on va peut-être essayer de se défendre, d'accord. Mais tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait quelque chose qui éclairait sur la nature humaine et tout, sur le mal et la capacité à nuire. Mais jusqu'où iriez-vous, vous-même, messieurs, dames êtes-vous capable de cruauté ?
Non. Ça, je réponds catégoriquement. Catégoriquement.
Non plus.
Je ne me vante pas. Je ne dis pas que je suis courageux. Je ne dis pas que je serais capable de faire ce que vous faites. J'en ai envie. Mais par contre, je suis sûr que je ne peux pas. Quand j'étais gosse, je ne comprenais pas que mes copains dans la cour d'école enlèvent une aile à une mouche. Je ne comprends pas.
Exactement.
Mmh. Exactement la même réponse. Très, très, très attaché à justement ne pas être cruel.
Voilà.
Bon. il y a des situations où c'est un peu difficile parce qu'ils sont quand même dans des situations limites. Mmh. Mais justement, parce que c'est la victoire du bourreau, finalement. C'est quand tu deviens comme le bourreau. Donc ça, mmh. ils sont très, très conscients. Et bon, pour moi, là, toi, tu poses cette question-là, mais pour moi, c'est évident que, justement, c'est impossible d'envisager cela.
D'ailleurs, alors, d'ailleurs c'est relié à ce que la question que tu avais posée, Laurent, sur la vengeance. Tu te souviens, dans une de nos lettres. Et tu te souviens, Laurent, hein, là-dessus. Et par contre, la vengeance et la cruauté, c'est pas pareil.
Ah non,
il faut que le coupable, justement, comme le disait David tout à l'heure, on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac par la soumission à la douleur. Non, non, non. Il faut que le coupable prenne conscience de ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que je disais que j'ai fait un long texte sur « Il était une fois dans l'Ouest », parce que c'est tout un travail de psychanalyse que fait le Western, où Charles Bronson, en faisant revivre au salaud ce qu'il a fait, mais le salaud, évidemment, lui, il a refoulé, car il n'y a pas meilleur refouleur que le salaud, beaucoup plus que la victime encore. Et il faut lui faire réveiller la chose, Et c'est un film qui donne une satisfaction qui n'est pas de l'ordre de la cruauté du tout. Il faut que le salaud voit. Et on voit qu'à la fin, il voit dans ses yeux ce qu'il n'avait jamais vu.
Exactement.
Alors, et par rapport à la guerre, c'est très important. Donc je crois te répondre, Anne, pas la cruauté, mais par contre, je tiens absolument à ce que les comptes soient réglés. Absolument.
Bien évidemment. Et après, dépassons la question, c'est parce que la violence dans la psyché d'une nation, c'est quand même centré sur des... c'est sur des comportements individuels, mais vous avez tous les séries d'anecdotes sur les bastons surréalistes, Elia Ehrenbourg qui se fait gifler par Breton, Aragon et Breton qui font une descente dans le rad de Robert Desnos, etc. Il y avait quelque chose qui me préoccupait, c'est-à-dire que pour en revenir à Volodymyr Yarmolenko et Tatiana Ogarkova, qui ont écrit La vie et la lisière, donc, Yarmolenko, en conférence, il nous dit, c'est peut-être un vœu pieux, il nous dit, il faut arrêter d'esthétiser la violence, à tout prix. Mmh. C'est-à-dire qu'il est prêt à... il faut arrêter d'esthétiser la violence, c'est désamorcer le cycle de A à Z, et il est prêt, presque, si on suit cette ligne-là, à mettre Sade à la poubelle, ou alors Jean Genet au feu, ou alors voilà, toute cette littérature qui est une littérature violente, esthétisée, et à la censurer, à la désamorcer d'emblée. Mais je pense que ce n'est pas une solution qui est satisfaisante. Ah, bah et surtout, la violence, elle part, je pense qu'elle est légitime, mais de personne à personne. Comment dire ? Non, c'est délicat de dire ça. Merde, René Char a pété la gueule à ceux qui ne l'aimaient pas quand même.
Ah ben voilà, ça c'est l'argument.
Mais...
Non mais ça, c'est la question de la cruauté et de la violence.
T'as envie de péter la gueule avec qui là ?
Ben vas-y, dis-le. Bah, ça tout de suite.
Bon allez, Samantha.
Non mais attends.
Samantha.
Autre question.
Non, parce qu'en fait, cette question de la cruauté et de la violence, je me la suis posée et je continue de me la poser d'une autre manière. Vous allez voir comment je trouve en fait ce point particulièrement dans mon cas intéressant, même si c'est pas dans mon cas, il est particulièrement intéressant parce que je pense que quand on se pose la question de comment écrire ou qu'est-ce qu'écrire sur la guerre. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a peut-être deux écoles concernant l'Ukraine, c'est-à-dire, et les écrivains ukrainiens eux-mêmes, je pense, se posent des questions, mais ont peut-être déjà trouvé, eux, leur réponse. Mais à savoir, si on écrit, la réalité est tellement puissante en tant que telle, est un matériau tellement énorme, avec des enjeux qui nous dépassent tous, que... On n'a pas besoin d'imaginer quoi que ce soit, qu'il faut rendre justice à ce qui se passe, il faut rendre justice à ceux qui ont réellement vécu les horreurs, rendre justice à ceux qui ont fait de leur mieux et qui sont extrêmement courageux, et que la réalité se suffit en fait quelque part elle-même, et on doit être l'escrit quelque part de cette réalité-là. Ou alors on a la poésie, et la poésie, elle a totalement sa justification parce que c'est l'expression de l'individualité de la manière la plus pure et la plus immédiate possible, et que dans le cas d'Ukraine en plus, la tradition poétique, c'est une tradition de résistance et d'existence, puisque c'est l'oralité qui résiste finalement à la destruction des écrits, il y a ça aussi. Mmh. Et ma question, c'est, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fiction, donc, la possibilité non pas d'inventer, mais en fait de créer quelque chose qui ne soit ni de l'ordre du reportage pur et dur, ni de l'ordre de la poésie, du cri poétique, appelons-le comme on veut, elle n'a pas le droit de citer. Et c'est une question qui rejoint directement cette question-là, la violence et de la cruauté. C'est-à-dire, quand il y a tellement de cruauté, tellement de mal, tellement de violence dans ce monde, est-ce qu'on a besoin d'en rajouter?
Alors,
le premier mouvement, et je le comprends très bien, c'est « mais non, non, on ne va pas faire ce cadeau-là quelque part au mal en rajoutant du mal au mal. On ne va quand même pas participer de cette espèce de cercle vicieux et de cette espèce de grosseur infâme en grossissant encore, en nourrissant encore la bête. » Et moi, j'en suis à un point, je vous fais vraiment part d'un travail, en fait. Hein. Je dis pas que j'ai toutes mes réponses et quoi que ce soit, où je me suis dit longtemps, ça m'empêchait d'écrire. Et maintenant, je me dis, en fait, cette question-là et cette obsession-là de ne pas rajouter du mal au mal, mais de se dire à partir de quand créer une scène, une histoire, en allant, évidemment, en s'inspirant et en allant chercher, évidemment, quelque chose qui est de l'ordre du réel, dans mon cas. Dans quelle mesure, quelque part, tu ne dois pas garder ça à l'esprit, mais quand même écrire. Tout est dans le quand même. Mmh. Et toute la marge est dans ce quand même. Et tout de même. Ne pas abandonner, quelque part, la fiction à la cruauté, au sadisme, à l'imagination des autres, en fait, qui est l'imagination des bourreaux ou des propagandistes. Mmh. Vous voyez comment je...
Oui. Il faut que tu fasses, il faut que tu nous, tu vois, tout se joue dans le quand même et le tout de même. Tu devrais nous faire un texte là-dessus, parce qu'on est tous en train, on est remué par ça. Vous êtes en train de travailler là-dessus, évidemment. Moi, je l'ai fait finalement. Je suis revenu sur Genet et Céline dans la dernière livraison, mais c'est en liaison avec tout ça. Mais là, il y a une formulation neuve. Ce qu'a dit Laurent aussi, ce qu'a dit Anne. On devrait peut-être fédérer un peu ça en servant des corps célestes, peut-être, je ne sais pas. Ou si vous avez des bribes de texte, qu'on fédère tout ça, quoi.
Parce que... pourquoi pas sous la forme d'une conversation. Ben, toi, tu fais déjà cette conversation avec Anne et Laurent, mais ça peut être aussi...
Moi, j'ai une question à leur poser, d'ailleurs.
Moi, je suis très partante pour une conversation sur quelque chose. Enfin, voilà, moi, au contraire, je trouve
on que... On peut très bien faire une table ronde, mais en quelque sorte officielle, écrite, avec un verbatim, où chacun se positionne. Je crois que vraiment, le centre, le noyau, c'est quand même ce que tu as désigné, Jean-Philippe, c'est-à-dire... la vocation analytique de la littérature, voilà, c'est quand même la foi qui nous porte tous ensemble. C'est quand même la conviction que seule la littérature peut arriver à analyser correctement quelque chose. Et c'est très intéressant parce que je pense vraiment, sincèrement, qu'on a tous des manières très différentes d'y arriver, tous un style et des problématiques très, très différentes. Olive est vraiment possédée par cette question. C'est comme
non,
la fameuse.
Possédée.
elle est. Enfin, Samantha. Samantha est possédée. Olive, non. Samantha est possédée.
Samantha me possède, en l'occurrence.
Tu sais, c'est comme cette fameuse formule psychanalytique. Je sais bien, mais quand même. Oui, alors, ouais. Olive, en ce moment, elle est dans la phase. Je sais bien que la fiction ne devrait pas avoir lieu, mais quand même.
Mais quand même.
Ouais. Voilà. Ouais. Et donc ça travaille profondément. Alors, je dois dire, moi, ce n'est pas du tout le sujet.
Mais Anne et Laurent, de vous, c'est encore autre chose.
Exactement. Mmh. Mais par contre, il y a quand même un point nodal qui ne disparaîtra pas. C'est cette conviction que la littérature seule peut analyser correctement quelque chose. Et je dis bien analyser, hein, ça veut dire pas délirer, improviser, c'est vrai, mais véritablement décrire du réel au sens le plus direct du terme. Et je pense que c'est vraiment ça qui est en quelque sorte le noyau. Et je sais, Jean-Philippe, pour t'avoir lu, que c'est quelque chose qui vient de très très loin dans ta trajectoire. C'est pas quelque chose que tu découvres avec l'Ukraine du tout.
Ben on a été réunis par l'écriture les uns des autres, parce que moi c'est en vous lisant.
C'est ça, mais aussi tu sais la fameuse phrase de Borges, les écrivains français veulent savoir ce qu'ils font.
Ah oui.
Ben, c'est cette espèce de volonté non sentimentale de ne pas se laisser enrober, tu sais, mensonges romantiques et vérité romanesque. Ouais. Cette vérité de ne pas se laisser, justement, ce qu'on reproche à la culture russe, c'est de verser dans une sorte de sentimentalisme qui les rend absolument inapte à l'analyse.
Ah, voilà.
Moi, je serais très partante pour faire un dialogue à plusieurs. Si vous êtes partant,
totalement. Parce que moi, je vais vous dire une expérience à chaud. Par exemple, là, ce soir, avec ce que vous avez dit les uns les autres, j'ai gagné en clarté, même sur des choses terribles. Mais je suis pas pareil qu'il y a 2 heures. C'est encore une fois l'apport de la littérature. Non, mais c'est encore une fois l'apport, parce qu'il y a eu à chaque fois la singularité des approches, la liberté d'approche, mais rigoureuse en même temps. Et je pense que c'est ça notre mise, c'est ça qui nous a réunis. Je crois qu'on devrait le faire sous forme de... Vous pensez peut-être à un dialogue, c'est-à-dire on envoie des questions-réponses par Internet, par mail, quoi.
Je pense que ça serait peut-être la meilleure façon de faire.
Oui.
Parce que chacun pourrait prendre le temps de mûrir selon ces termes. Évidemment, quand on enregistre, on laisse échapper des phrases qui ne sont pas forcément adéquates, etc. Et je pense que par écrit, mais faire une table ronde ensemble, ça aurait vraiment, vraiment beaucoup de sens. Enfin, moi, je suis complètement partant.
Moi aussi.
Et on peut le faire de manière très, très, très vive, en fait.
Très souple.
Et en respectant le ton que chacun veut donner. Je trouve ça très plaisant. Et je pense que c'est aussi plaisant à lire pour les gens aussi.
Oui, tout à
Alors,
fait.
On aura quand même une question technique, parce que c'est exactement ce que je fais avec Anne et Laurent. Mais c'est très facile, parce que je leur envoie une question, ils me répondent, et d'ailleurs, vous allez voir, c'est passionnant, parce que les réponses de Anne sont très différentes de Laurent, donc on a vraiment un sentiment de table ronde. Mais c'est très facile à organiser, parce qu'on est à 3. Là, c'est comme une partition musicale, il faudra que quelqu'un dise « Ah, là, j'interviens !» Parce qu'on ne sait pas qui... N'importe qui peut intervenir à un niveau... de la partition musicale, en quelque sorte.
Ou alors, est-ce qu'on fait le principe, en fait, que c'est, de toute manière, on se donne des places comme autour d'une table, puisqu'on
parle d'accord.
d'une table ronde, c'est-à-dire qu'on sait que chacun, soit quelqu'un peut répondre et passer la réponse, la question à l'autre.
Il y a un ordre prédéfini.
Parce que
s'il n'y a pas d'ordre,
vu qu'on est 6. Un dé à 6 faces, et puis on jette le dé pour savoir qui répond au hasard.
Ah, c'est pas mal ça.
Oui, mais tu n'aboliras pas le hasard comme ça.
Hein. Oui. Comme disait. Ah, ben je te reconnais, David, tu t'appelles Stéphane en fait, c'est ça. Hein. Ah, d'accord.
Ouais, avec beaucoup de plaisir, vraiment.
Mais ceci dit, je voulais rebondir sur ce qu'Olivia disait rapidement, parce que peut-être que vous avez des autres trucs à faire, mais l'idée, c'est pas pour la littérature, l'enjeu, c'est pas de rajouter de la violence et faire de la surenchère sur la violence. Je pense que la littérature n'a pas pour but de décrire la violence. Elle peut le faire parce que c'est peut-être plutôt l'apanage du journalisme ou même du témoignage, bref. Mais la littérature a pour but d'expliquer la violence, et ça, c'est autre chose. Je pense que quand on descend dans les méandres de l'explication de la violence, là, il y a œuvre littéraire plutôt qu'une simple description brute qui rajoute du mal sur le mal. Bon, c'est une piste, mais
c'est très intéressant.
À développer dans le dialogue hexagonal.
Ouais. Moi, j'ai une idée que je n'ai pas formulée, donc je serais très...
Ah, heureuse. La coquine, elle a des billes d'avance.
Elle sera complètement différente de tout ce qui a été dit.
Ah, fascinant, mais, super. Quand même. Super.
Vas-y, Marilyn.
Non, ça se fait pendant la... Voilà,
notre... Ah, d'accord, ok.
D'accord, moment officiel.
Non, je ne vais pas vous le dire, sinon vous allez me le piquer.
Mais on ne pique pas Marilyn, voyons, on ne pique pas Marilyn.
Ça va devenir une démonstration. Non, mais moi, je trouve que c'est une super idée. C'est une super idée, mais c'est redoutable. Hein, c'est une question qui est vraiment redoutable et elle est extrêmement inconfortable. C'est-à-dire, je pense aussi que c'est ce genre de question de que peut la littérature face à la violence. Je ne sais même pas si ça doit se formuler comme ça, mais imaginons. On peut très bien tenir ferme pendant un temps et à un moment fléchir ou avoir un doute énorme par rapport. Parce qu'en fait, comme on parle de création, tant qu'on n'est pas en train de travailler un texte, en fait, je pense qu'on peut avoir même au prix de réflexions difficiles, on peut avoir de très belles idées et être très, très convaincu. Et puis dès qu'on commence à se frotter à l'écriture elle-même, tout peut s'écrouler, ou les doutes reviennent et finalement... Et voilà,
surtout, donc Olivia, surtout que la question que tu poses, moi je pense évidemment à tes contes noirs.
Oui.
Et pour moi, c'est le contrat de lecture, le contrat avec le lecteur, c'est-à-dire que quand tu expliques ce que j'écris, ça part de scènes que j'ai vues, c'est un témoignage. Nous, quand on lit la suite, on ne va pas le lire dans la même perspective que si tu dis « il s'agit d'une fiction ».
Alors,
et donc, du coup, ta question, c'est un vrai enjeu pour toi, parce que soit tu gardes ce cap-là, et nous, on est dans ce contrat-là, on se dit « ok ». Là, la petite dame qui est morte de faim, elle a été complètement... on l'a pillée jusqu'à la faire crever de faim. Et c'est vrai. C'est pas inventé. Après, si tu lâches ça en te disant « Oui, mais après tout, je peux inventer des situations... »
Non.
Effectivement, tout en décrivant la violence. Ça serait honorable. On pourrait se dire « Oui, mais bon... »
Bien sûr, il y a des grandes œuvres. Il y a des grandes œuvres qui
sont... Effectivement, le contrat n'est plus le même. Et je trouve intéressant que tu utilises cet espace du conte pour rester au plus près de ce qui s'est passé réellement et leur rendre...
Absolument.
Tu leur redonnes leur honneur, leur dignité.
Exactement.
D'une certaine manière, c'est comme ça que moi, j'ai, pour le moment, résolu quelque part mon conflit interne et ma crainte en fait de l'indécence ou de l'utilisation ou d'une forme ou d'une manière en fait de faire d'un matériel qui est de me servir en fait de la souffrance des autres comme d'un matériel qui me serait absolument insupportable. Donc, en ayant peur de tout ça, c'est vrai que c'est la manière que j'ai trouvé, mais encore une fois, une fois que je me suis dit voilà, telle est ma discipline, c'est-à-dire que rien n'est inventé, tout à chaque fois est réel, lu, observé, écouté, etc., etc. Et ensuite, je fais mon travail d'écrivain par rapport à ça. Mais c'est vraiment ma boussole en fait. Et c'est le moyen que j'ai trouvé. Je ne sais. Après, je ne sais pas si tous ces contes seront bons. Je ne sais pas si tous sonneront de la même manière. Je ne sais pas. Et parce que je découvre au fur et à mesure, parce qu'à chaque fois, la situation, l'histoire elle-même est profondément individuelle. Et que je ne veux absolument pas, à chaque fois, faire une sorte de répétition ou d'avoir une sorte de recette, en fait. Il ne s'agit pas non plus que ce soit une recette. Donc, c'est assez exigeant de ce point de vue-là. Alors, voilà, je ne sais pas jusqu'où ça mènera. Je ne sais pas si ce sera tout le temps bon. Mais ce dont je parlais, à savoir l'inconfort ou le doute et la méfiance vis-à-vis de soi-même, quelque part, ou de l'espèce de... Quand on écrit, vous le savez tous, on peut avoir cette satisfaction de la belle formule ou de la belle histoire. On se dit, j'ai fait quelque chose de beau, on en est satisfait. Mais en fait, quelque part, il y a une surméfiance par rapport à ça. Parce que je pense que c'est indécent de plein de points de vue pour les gens qui ont réellement vécu ça. Et puis parce que quelque part aussi, c'est pas ce que j'attends moi de la littérature. Donc en tant que lectrice aussi, je me dis moi les meilleurs textes que j'ai pu lire, les choses c'était celles qui me, je dis pas choquer c'est facile, mais c'était ceux qui me mettaient dans une position extrêmement inconfortable et dont je comprenais en fait pourquoi c'était nécessaire que ce soit inconfortable.
Tu as cette écriture de la non-fiction novel, je t'avais cité, je m'étais dit, mais par rapport à Truman Capote, dans ton nécrologie d'un chat, etc., du chat, ce que je trouve précieux, c'est que dans ce qui a été dit là, on aimerait que pour faire notre table ronde écrite, tout ce que tu viens de dire là, par exemple, Olivia, c'est pas séparable. C'est même le doute que tu as, tout en affirmant, etc. Il faudra arriver à comment on va faire. On pourrait pas commencer par là avec l'enregistrement et qu'on le retape ou.
Si vous voulez, ou peut-être que vous, Anne Laurent, peut-être que vous avez une autre idée sur la question avancée
Numéro 1, quel serait le média? Ce serait Kif Desk ou Les Corps Célestes?
Les corps célestes.
Enfin,
les corps célestes. Nous, on fait déjà cette table ronde en quelque sorte, et que on n'a plus qu'à d'ailleurs traiter la dernière question. Mais je pense que là, c'est vraiment quelque chose qui appartient à cet univers qu'on,
qu'on partage ensemble sur les corps célestes et ça aurait vraiment du sens. Moi, je voudrais juste que ce soit pas trop grand à lire parce que il faut que ce soit lu. On le fait pas pour nous et donc il faudrait juste se dire de respecter un certain format. Et moi, je suis plutôt sceptique vis-à-vis de l'enregistrement oral parce que c'est un travail énorme pour les personnes qui retapent. Alors que si on écrit, on fait le choix. Quelqu'un pose la première question. Je crois que notre thème sera autour de la violence et la littérature de la violence ou peut-être le flip side of sentimentalism, le revers de la sentimentalité. C'est Martin Amis qui disait ça, que le flip side of sentimentalism is violence. Et c'est quelque chose qui est tellement juste par rapport à tout ce qu'on a dit. Et donc, on pourrait partir de ce thème peut-être, mais moi, je pense que le plus fédérateur, et c'est ça qui est étonnant dans ce que dit Olive, c'est qu'elle a besoin de passer par le conte pour être encore plus précise, pour analyser les choses précises. Ouais. Bon, à partir du moment donné où la personne passe par un genre pour être précise, alors ce genre est totalement légitime.
Oui. Alors, en fait, pour que ce ne soit pas lourd, comme tu le dis, David, il ne faut pas oublier que les corps célestes, il y a des livraisons mensuelles, donc chaque mois, on donne une partie de notre dialogue. Parfois, ce sera court, parfois, ce sera plus long, selon notre rythme, voilà. Moi, je veux bien essayer mais quand j'ai parlé de l'oralité, c'est que je regrette, par exemple, l'une d'entre nous peut commencer, mais c'est vrai qu'il y a eu des choses qui ont été dites avec la fluidité et en même temps les entrecroisements de pensées qui disent tout, en fait. C'est ça on va essayer de restituer ça. Mais après tout, c'est ce qu'on essaye de faire avec l'écrit, hein, toujours.
Ah oui, d'avoir cette grâce-là qui n'est pas évidente. Mais moi, je m'en réjouis. Si vous êtes tous partants et tout, je m'adapte, voilà.
Ce qu'on peut faire, c'est juste une proposition, une humble proposition, mais étant donné que les corps célestes sont quand même de l'initiative de Valérie et de Jean-Philippe, de Valérie surtout. Valérie peut commencer.
Excellent.
C'est Valérie qui commence, très bonne idée.
Et puis elle dit, ça peut être une forme de question, ou ça peut être un propos, et puis... elle écrit ses 450 pages. On répond
en trois phrases et puis elle continue.
Voilà. Et nous on brode.
Bon, d'accord.
Non mais on est tous d'accord pour que tu commences, Valérie. Et je pense aussi Jean-Philippe, parce que c'est un peu nos hôtes, quoi.
Selon la très belle formule d'Anne et Laurent, c'est vraiment la main au six doigts, quoi. Vraiment, non, il n'y a pas d'autre. C'est assez magique. Et bon, bah alors voilà, on va faire comme cela. Est-ce que vous avez des contraintes horaires là en ce moment? Vous devez.
Non, non.
Nous, on n'en a pas. Je voudrais qu'on montre quand même à Olivia et David, Valérie, si tu veux bien, ce qu'on a montré à Anne et Laurent avant que vous arriviez pendant les 5 minutes. Vas-y. Parce que vous nous invitez, mais vous savez que vous êtes invité aussi à Paris. Mais attendez. On sait que Paris, vous n'y tenez pas tellement. Et on vous comprend largement.